Viennent d'arrêter le président Pereira. Le premier ministre, qui était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, a été conduit dans un endroit secret. Les soldats annoncent vouloir dénoncer un accord militaire secret avec l'Angola. L'Union africaine juge cet après-midi inadmissible le coup d'État en cours. Le cessez-le-feu en Syrie menacé à la frontière turque. Des affrontements ont opposé ce matin l'armée et des insurgés. Par ailleurs, 3 personnes ont été tuées cet après-midi au cours de grandes manifestations organisées par l'opposition.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec le journal Le Monde, Lydie Salvert pour Hymne. Paru au Seuil.
C'est avec elle que j'ai commencé à comprendre que les écrivains vivants faisaient un travail qui réutilisait aussi le classique pour le détourner.
Et Chloé Delhomme pour Une femme avec personne dedans. Chez le même éditeur.
Chez Chloé, par exemple, il y a une part d'enfance inouïe. Et en même temps, on sent bien qu'elle a traversé les enfers.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
15h05 sur France Inter. Et vous retrouvez Daniel Mermet. C'est là-bas si j'y suis.
Eh, hey, oh! C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coups de trique. C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coups de trique. Donc, oh, j'en appelle à la claque, à la nique, à la niaque, au déclic, au black bloc, au technopunk, au gothique, à l'attaque, à l'éthique, à l'estoc, au moukak, au guerrier de la moque, au kozak, au lascar, au face de bouc, au nikoumouk, au loufoque, au plouc, aux puissances anarchiques. J'en appelle à boucler ce cycle, j'en appelle au souffle épique, au baroque, au colchique dans les prés, aux forces telluriques, à la conque magique, au quartz, au quark, au cristal, à la physique quantique, au rayon cosmique, au dragon galactique. Au dragon galactique. Pour faire la nique à la métrique de la matraque, pour mettre des claques à la détraque, à coups de trique. Pour faire la nique à la métrique de la matraque, pour mettre des claques à la détraque, à coups de trique. Merci à vous, Antoine de Bièvre. Un grand merci pour toutes ces émissions qui m'a pas mis du plomb dans l'aile, mais plus dans la tête. Allez, je vous embrasse. Ciao.
Bravo France Inter, vous êtes en Espagne. Moi, j'ai écouté aussi les Enguignardos de Madrid, de Barcelone. En France, je pense que ça fait mal de se bouger, de s'indigner. Il faut plus que s'indigner, il faut oser, oser, oser. Osons, hein, comme disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Daniel, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai envie de voter. C'est pour ce type de communauté dont on vient de parler. C'est formidable. C'est ça qu'on veut. Je ne sais pas ces guignols désespérés que je vois maintenant. C'est ce type de communauté où les gens sont responsables d'eux-mêmes, des uns et des autres. C'est formidable. C'est pour ça. Comment je peux faire pour voter pour ça? Continue ces émissions. C'est formidable. C'est excellent. C'est Antoine de Sarzeau.
Bonjour, je suis d'origine espagnole et je suis dans un milieu privilégié au Chénet. Je viens d'être révoltée de ce que j'ai entendu. Je suis de tout cœur et soutien ces gens qui sont dans la finca et j'espère de tout mon cœur qu'ils réussiront. Il faut que ces gens y arrivent, il n'y a qu'un Dieu sur terre, et il faut qu'ils les regardent. Vous allez vaincre parce que la force que vous avez en vous doit vous faire exploser de joie et de bonheur et de réussite. Bravo, viva España, olé.
Bonjour Daniel, bonjour ton équipe. Belle leçon de démocratie andalouse. Au fait, comment on dit kibbutz en espagnol? À bientôt Daniel. Henri de Toulouse.
Je suis perplexe. Les spéculateurs sont-ils des êtres à part qui ne se nourrissent que de fric? Pour eux, la terre ne produit pas des fruits ou des légumes ou de l'herbe pour les vaches. Non, elle produit des subventions européennes, des primes PAC. Cette terre, ils n'y ont jamais mis les pieds, je suis sûre, et encore moins les mains. Alors oui, ces paysans qui la travaillent sont dans leurs droits. Et ce gars a raison. Occupons la terre, mais aussi les usines, les banques. Et pourquoi pas l'Elysée et Matignon? Hein? Pourquoi pas? C'est Christine du Limousin.
Bonsoir, c'est Annelise de Toulouse. C'est un peu pour les AMG qui n'ont pas Internet que je voulais apporter de petites précisions à propos de la finca des Somontes. c'est que d'une part, le SOC est sans doute le seul syndicat européen à avoir officiellement réclamé la réforme agraire, et qu'en partie, il a eu gain de cause, qu'il a pu créer des coopératives sur des terres occupées. D'autre part, pour ceux qui ont Internet ou des copains qui ont Internet, il y a des informations sur le site www.sindicatoandalus.org, andalusuzen.org. Voilà, on peut apporter son soutien puisque le SOC a lancé un appel à la solidarité locale, nationale et même internationale. À bientôt, ciao.
J'ai regardé hier les 5 derniers candidats à la présidentielle. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est le comportement de Franck-Olivier Gisberg, qui a manqué de respect à l'animatrice qui était avec lui. Alors qu'elle avait remarqué que Poutou avait bien défendu son programme, d'ailleurs applaudi par le public, ce dernier lui a dit « Vous n'allez pas passer la soirée là-dessus ». Bien sûr, le seul à qui il a serré les pompes, c'est Sarkozy. Vous souvenez-vous, aux dernières élections présidentielles, pour commenter les résultats, il se trouvait placé à côté de Marie-Georges Buffet et avait dit « Les communistes, avec leur béret et la baguette sous le bras, c'est terminé. J'étais mal à l'aise pour elles. Mais il faut virer cette uluberlue vulgaire du service public. Il y en a d'autres à droite qui sont beaucoup plus diplomatiques. En plus, il n'a pas besoin de ça, il est directeur du Point. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, une bouteille à la mer, SOS. Paris, Jamila, maman solo, 2 enfants, âgés de 11 ans. Date d'expulsion prévue dans 8 jours. Décision du tribunal irrévocable. 2009, licenciement. Je rentre en résistance. 968 candidatures. Fin de droit. ASS, 480 euros par mois. Juste de quoi payer les factures d'énergie, faire la queue au resto du cœur et garder la tête hors de l'eau pour mes enfants et moi. Depuis 2 semaines, enfin, ouf, un emploi à temps partiel. Déclassé, certes, mais un emploi quand même. Aidez-moi. 2800 euros de retard de loyer. Commissariat, huissier, j'ai reçu tous les courriers et mes filles et moi garderons notre toit. Aidez-moi pour ne pas qu'on se retrouve dans la rue et rallonger la liste des sans domicile fixe. Merci beaucoup. Merci à tous de votre aide. Aidez-nous s'il vous plaît. Merci.
Voilà, si vous voulez donner un coup de main à cette auditrice... son mail, un mail a été créé qui s'appelle pourjamila@yahoo.fr. Pour Jamila, tout attaché, @yahoo.fr. Merci pour tous vos messages, chers AMG. Oui, Fogg, hier, s'est attiré les foudres de pas mal d'auditeurs de là-bas. Si j'y suis, en tout cas. Il n'y a pas que Marie-Paul de Villejuif qui est remontée contre Franz Olivier. Et beaucoup de messages aussi sur les reportages d'hier, là, sur l'occupation de terres en Andalousie. Et ben, ça nous ramène à tout ça, ça nous ramène à l'Espagne, ça nous ramène à l'Europe. Et l'Europe nous attend. Les financiers au coin du bois. Vous aurez la suite de ces reportages après l'élection, parce que le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, attend celui qui sera élu par les Français. Ce traité est en cours de ratification, il amènera une politique d'austérité, une véritable thérapie de choc libéral, tout ça bien sûr au nom de la dette publique qui a augmenté, etc. Vous connaissez cette histoire si vous nous suivez, même si vous ne suivez pas. On n'est pas les seuls à dire cela. Et aujourd'hui, on va se dire d'accord, enfin, l'Europe, l'Union européenne, elle va influencer grandement encore davantage notre sort dans les temps qui viennent, mais. Qu'est-ce qui influence l'Union européenne ? Qu'est-ce qui influence l'Union européenne ? Ben, parmi les influences, il y a les lobbies. On va aujourd'hui revenir sur des reportages que nous avions présentés en 2005 dans une nouvelle version sur le poids des lobbies. Alors à l'époque, lobby, c'était presque une découverte, en tout cas pour nous et pour pas mal d'entre vous. Mais vous allez voir qu'en fait, ça n'a fait que se renforcer. et se banaliser. Et vous pourrez, tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble, réaliser à quel point l'Europe des peuples, l'Europe sociale, c'est cette Europe qu'on nous avait promise et qui en a fait rêver plus d'un, eh bien, on en est très, très loin, au moins, on le verra dans les reportages qu'on vous présentera la semaine prochaine, dans l'ignorance totale que nous sommes de la vie et de l'histoire de nos voisins proches, par exemple, comme le sont nos voisins et amis espagnols. On en reparlera en début de semaine. Donc, aujourd'hui, Lobby Planète. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur l'événement de mardi, la mort de Raymond Aubrac, à qui je témoigne tout mon respect. Cependant, mon message et mon hommage s'adressent à un autre résistant, moins connu comme beaucoup. Son nom, c'est André Bro. Lui aussi va sûrement nous quitter cette semaine. Engagé dans la FFI à 18 ans, en 1944, combattant pour les libertés de la France et pour l'honneur des Français. Alors merci Pépé, merci mon Pépé, je salue ton engagement, je salue ta vie, et je suis si fier d'être ton petit-fils. Merci à cette émission extra de me permettre de lui rendre cet hommage. C'était Jérôme de Saint-Jean. Au revoir.
Bonjour, le vendredi 13 avril, à partir de 19h, aura lieu le prochain Café Repère de Grasse, au bar du commerce, 6-8 place Ossola, ça se trouve dans la vieille ville, en face d'anciennement Babali. Le thème, le printemps arabe, un an après. À bientôt.
Salut aux MG et à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. J'appelle au sujet du prochain film de Pierre Karl qui s'appelle DSK Hollande, etc. Le film montrera comment les grands médias de masse traitent de façon partielle les élections présidentielles et comment les journaux et les grandes chaînes de télé font en sorte qu'il n'y ait que deux candidats possibles, Hollande-Sarkozy, présenté en plus comme une alternative gauche-droite, alors qu'il s'agit plus vraisemblablement d'un affrontement centre-droit-droite. Bref, le film sera mis en accès libre très bientôt sur le site www.pierrekarl.org pour que la majorité des citoyens puissent y avoir accès. Vous pouvez déjà y voir quelques extraits et n'hésitez pas à faire un tour sur le site, donc www.pierrekarl.org. Bonne continuation à tous.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a accroissement des inégalités, c'est pas parce qu'il y a du libre-marché à tout craint.
Parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement?
On est dans un reportage ennuyeux. Il n'y a pas de choses sexy, il n'y a pas de choses amusantes, il n'y a pas de gens avec des plaintes et des choses très émouvantes, il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a pas de mère qui arrive en hurlant sur la caméra. Il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est lent. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, non?
C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème, qui ne comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Venti. Là-bas, si j'y suis, Lobby Planète.
Flight number 2, arriving from New York.
Je suis Eric Veselius et je travaille avec un groupe de recherche et de campagne basé à Amsterdam qui fait des études sur le lobbying dans une façon critique qui s'appelle Corporate Europe Observatory. Donc, Observatoire Européen des Entreprises.
CEO. Mais ça, c'est pas un sigle tout à fait innocent.
Ça veut dire aussi PDG, en anglais.
Executive Officer, PDG.
C'est un petit jeu.
Et alors là, tu nous as donné rendez-vous ici, pourquoi? Dis-nous où on est là.
On est ici sur le rond-point Schumann. C'est un petit parc pathétique.
Oui, un petit parc pathétique.
C'est vrai, parce que c'est avec trois fleurs et de la boue et des parterres.
Mais c'est le cœur de l'Europe.
C'est ça. La qualité du parc est minimale, mais la qualité des bâtiments qui sont autour, c'est vraiment les sièges du pouvoir européen.
Nous voilà dans le nombril de l'Europe. Place Robert Schuman à Bruxelles et on est au cœur de cette Europe qui nous intrigue, que nous détestons, que nous aimons, que nous voulons, que nous ne voulons plus, que nous ne voulons pas comme on nous la présente. C'est le cœur de cette Europe, c'est le centre de cette Europe là où nous nous trouvons donc avec Eric Vesselius de ce groupe d'observateurs de l'Europe industrielle. Ça fait des années que ces chercheurs cherchent, observent l'influence des multinationales à travers le lobbying sur les décisions prises par le Conseil. Je vais ramer parce que ma maman, qui est assez âgée, m'a dit qu'est-ce qu'il faut voter et comment ça marche l'Europe. Alors il va falloir que je lui explique que, là où nous nous trouvons d'ailleurs, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? À gauche, il y a le Conseil des ministres européens, où siègent les ministres des Affaires européennes de chacun des pays membres, qui nomment les commissaires européens à raison d'un par pays. Ces commissaires sont chargés de différents dossiers, environnement, commerce extérieur, énergie, politique régionale, etc. Par exemple, Pascal Lamy, c'est un nom qui vous dit quelque chose, était commissaire au commerce, chargé des négociations avec l'OMC au nom de l'Europe, c'est-à-dire au nom de 400 millions d'êtres humains, sans autre légitimité que celle de ce Conseil. Et puis, il y a également à Bruxelles, le Parlement européen qui siège 10 jours par mois à Strasbourg. Le reste du temps, il est à Bruxelles. Et ce Parlement, c'est nous qui l'avons élu. Ça, ce sont nos élus qui n'ont pas l'initiative des lois, leur pouvoir se limitant à ratifier et à amender. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, ce n'est pas très facile à piger. Mais ce que nous avons très très bien compris, c'est que là-dedans, la démocratie n'est pas très 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 directe. Et les décisions qui sont prises et qui concernent nos vies quotidiennes, eh bien nous n'avons pas tellement de prise ni de pouvoir sur ces décisions, d'autant moins qu'il y a ces lobbies. Alors pour nous, dans nos pays, un pays comme la France et d'autres pays, on dit les pays latins ne supportent pas les lobbies. C'est un cliché. Il faut dire que ces lobbies sont puissants. On va se balader dans la partie visible, dans ce qui est visible. Vous pouvez faire cette visite guidée. D'ailleurs, le CCI. Ces chercheurs hollandais organisent pour des chercheurs ou des journalistes une visite. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Eric Vesselius. Avant de se mettre en route et avant de partir, ce petit texte de Pierre Bourdieu, qui est en préface du livre de ce groupe de chercheurs, Europe Inc., et qui dit ceci, le Pierre Bourdieu: les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. La vulgate néolibérale, orthodoxie économico-politique, si universellement imposée et si unanimement admise qu'elle paraît hors des prises de la discussion et de la contestation, n'est pas issue d'une génération spontanée. Elle est le produit du travail prolongé et constant d'une immense force de travail intellectuel concentrée et organisée dans de véritables entreprises de production, de diffusion et d'intervention. Et bien c'est dans cette force de travail, ce qui en est donné de visible, que nous allons, avec Guy Van Til, nous balader aujourd'hui, Lobby Planet.
Value. Maria de l'Artelecom et de CGTL.
Depuis 1996,
attaque.
Et l'autre bonne nouvelle,
c'est le relèvement de recommandations effectuées par Exane BNP Paribas.
À ma main droite, il y a le Berlaymont. Berlaymont, c'est le nom du bâtiment. C'est là où la commission a son siège. Donc là, il y a 2700 gens qui travaillent dans ce bâtiment-là.
Ils travaillent à quoi ?
Ce sont les commissaires, leur cabinet et leurs équipes. Donc toutes les lois européennes sont développées ici avec la commission. Et après, le Parlement et le Conseil, qui est dans le bâtiment à gauche de nous, doivent approuver ces propositions et ils peuvent aussi amender ces propositions. Donc pour les lobbyistes qui veulent influencer la direction, le contenu des lois européennes, c'est très important de faire attention sur la Commission, d'influencer des lois.
Oui, pour eux, c'est très important d'être là dès le départ, dès que les lois s'élaborent, dès l'élaboration
des
lois.
Oui, et en plus, la Commission n'est pas une très grande bureaucratie. Ça semble bien grande, mais quand on compare avec des bureaucraties nationales, ce n'est pas extrêmement grande. Donc, il y a un problème de capacité technique pour rédiger les lois, les textes. Donc, la Commission a toujours été très ouverte aux lobbyistes.
Eh oui, le mammouth européen n'est pas si gras que ça. Pour machiner le machin, il y a autant de fonctionnaires pour toute l'Europe donc que pour une ville comme Paris et ou comme Marseille. Donc c'est une chance pour les lobbyistes qui apportent expertise, conseils à tout un chacun.
Ici en Bruxelles, il y en a 15 000 lobbyistes.
Ah, il y a 15 000 lobbyistes ici à Bruxelles.
Oui. Et on peut dire que deux tiers travaillent pour des intérêts commerciaux des entreprises, mais seulement 10% sont des gens qui défendent des intérêts des travailleurs, de l'environnement, des consommateurs.
10% ONG, syndicats,
oui,
et
ça.
Associations de défense.
C'est ça, c'est ça. Et il reste 20-30% que sont des lobbyistes, pas pour des pays, mais par exemple pour des régions ou pour des villes, des cités.
Oui, c'est que toutes les régions françaises, par exemple, sont représentées à Bruxelles, Provence-Côte d'Azur, Bourgogne.
C'est-à-dire que tu dis qu'il y a environ 10% qui défendent, disons, des causes sociales ou environnementales, 25% qui défendent des causes d'intérêt général, la promotion d'une ville, d'une région, etc. Et puis tout le reste.
Tout le reste, d'une façon ou d'une autre, défend les intérêts des entreprises. C'est ça. Il y en a 300 entreprises majeures qui ont une représentation ici à Bruxelles. Par exemple, en ce square, dans les bâtiments.
Tout autour de nous, oui.
Là, il y en a British Petroleum, Philip Morris.
Donc le pétrole et les cigarettes.
Là, il y a General Electric, qui est une entreprise américaine.
Grosse industrie.
Là, il y en a Dow Chemical, DuPont, Boeing, Airbus.
Dow Chemical, nos amis de Bhopal.
Bhopal, mais oui.
Donc ils ont des bureaux ici, dans ces bâtiments-là.
Dans ce petit rond-point qui fait face à la Commission européenne.
Oui, c'est ça.
Voilà, ainsi, lorsqu'on nous dit que des lobbies, ben, il y en a de toutes sortes. Il y a effectivement des lobbies qui défendent les intérêts industriels ou financiers, mais il y a aussi des lobbies qui défendent eh bien, les droits de l'homme, les syndicats, l'environnement, etc. On voit tout de suite que c'est vrai, sauf que c'est un cheval et une alouette. C'est une alouette de droits de l'homme, d'environnement et syndicats, ou d'intérêts collectifs, mais et puis c'est un cheval d'intérêt industriel ou financier. Un exemple de l'influence des lobbies ou des multinationales. Eric Vesselius.
I think the best example of influence is in the treaties themselves.
Je pense que le meilleur exemple de cette influence, on le voit dans le traité lui-même.
And it looks more and more like a free trade zone. And less vraiment, political union.
Ça ressemble de plus en plus à une zone hors taxe et de moins en moins une union politique.
And in a sense, that's the best result that corporate interests could have had.
Et c'est, dans un certain sens, c'est ce que les intérêts des entreprises pouvaient espérer de mieux.
For many people, the link between what happens in their country and the European level is not so clear.
Pour beaucoup de gens, ils n'arrivent pas bien encore à voir le lien entre ce qui se passe, la situation dans leur pays et les décisions qui sont prises au niveau européen.
C'est ça, parce que je pense que la plupart des Européens, des 25 pays européens, ne voient pas le lien entre ici, où nous sommes, Bruxelles et leur vie quotidienne. Oui. C'est ça la question. Alors, est-ce que tu crois que ça a été volontaire de dissocier Bruxelles et l'Europe?
C'est utile pour des gens qui sont dans les gouvernements nationaux. C'est très utile. Ils peuvent toujours dire, ah, c'est une décision européenne, il faut diminuer le déficit du budget national.
C'est une directive européenne, on n'y peut rien, quoi. Oui, ça vient du dessus.
Mais ce sont les ministres qui ont dit, ok, on fait ce...
Qui ont fait cet accord.
Oui, donc ils sont complices.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier. Des analyses à toute heure. Et le point de vue des décideurs. Vous en avez rêvé ? Bloomberg Télévision l'a fait. Une analyse et une couverture complète des marchés.
Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, radio-télévision publique belge. Je me suis occupé pendant 35 ans de l'Europe. Tout ce qui est sommet, conseil de ministre, et surtout au travail fait autour de l'Europe par les lobbies industriels.
Jeune retraité Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, voilà des années que ce vrai journaliste dénonce l'influence... Enfin, la connexion des institutions européennes et des entreprises. Comment les institutions européennes sont de plus en plus au service des entreprises. Alors, il y a ce mot de lobbying qui est un mot que nous n'aimons pas, mais ce mot a une histoire.
Les lobbies existent depuis toujours. Depuis la création du monde industriel, ils ont commencé surtout dans le monde anglo-saxon. Et ça s'explique très bien. Pour légiférer en matière industrielle, commerciale, le législateur doit essayer de comprendre au mieux ce qui se passe dans le monde industriel. Donc il doit le consulter, ce qui est tout à fait normal. Hein, on ne va pas légiférer n'importe comment. Il faut que la loi soit précise, pertinente. Et donc aux États-Unis, les lobbies, parce que les États-Unis c'est un très très grand pays, 6000 km de largeur, les lobbies se sont installés à Washington à la fin du 19e siècle pour être près du Congrès. Et pour informer le Congrès. Mais très vite, ça a dérapé. C'est-à-dire que les lobbies, les industriels, se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème, ne comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça. Et le même processus s'est passé en Europe au début des années 80. On a créé la table ronde européenne des industriels pour ça et uniquement pour ça, pour légiférer avec les juristes de la Commission européenne. Et donc la table ronde européenne des industriels existe depuis mars 1983 et depuis elle ne fait que ça. Et elle va très loin parce qu'elle ne s'occupe pas seulement de rédiger la loi européenne, donc la loi qui nous concerne tous les jours. Elle donne les grandes lignes de la politique à suivre. Par exemple, en 2002, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la bonne gouvernance européenne. Que trouve-t-on dans ce livre blanc ? Que les parlements sont trop lents, mettent trop longtemps à comprendre les dispositions réglementaires élaborées par la Commission européenne, et donc qu'il faut se passer d'eux, y compris le Parlement européen qui a pratiquement rien à dire. Donc comment s'en passer ? Oh, idée de génie qu'ils ont eue, encore une fois, on a copié sur les États-Unis, on va faire des agences, comme la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui est l'agence qui réglemente tout ce qui est médicaments et alimentation. Quelle est la différence entre une agence et une direction générale de la Commission européenne ? C'est que l'agence est indépendante. C'est que l'agence ne réglemente pas par directive européenne, c'est-à-dire par des lois, mais par des réglementations. Et que ces réglementations ne passent plus devant les parlements nationaux, qui ne sont pas tenus informés. Il y a déjà 10 agences européenne. On va créer probablement des agences pour tout ce qui concerne la politique ou les politiques de l'Union européenne. Une agence agriculture, une agence commerce extérieur, une agence commerce intérieur, une agence économie et finances qui vont être installées par exemple pour l'agence développement. Ce sera probablement à Montpellier en France. L'agence agriculture Parme, la ville italienne, est candidate. Donc tout est déjà préparé. Une fois que ces agences seront créées, il n'y aura plus aucun contrôle démocratique sur la politique de l'Union européenne. Plus aucun. Et tout ça est en train de se préparer à notre nez et à notre barbe sans qu'on soit tenu informé.
CNBC Europe is part of the biggest financial news network in the world. Accessing local business knowledge that's trusted worldwide. 87 million households, 46 countries, 24 hours a day. One world, one network. CNBC Europe. World leader in business news.
Pourtant, c'est pas ce qui manque. L'information, on en a de tous les côtés, ça nous tombe de tous les côtés, on est oppressé d'informations à longueur de temps. Et effectivement, Gérard de Sist n'a pas entièrement tort. Avez-vous souvent entendu parler de la théorie, vous avez entendu parler de ça? La table ronde européenne, autrement dit ERT en anglais, European Round Table. Pas beaucoup quand même d'entre nous pour qui c'est des termes courants et des notions et des informations très précises. Et pourtant, ce lobby réunit les dirigeants de 45 entreprises européennes de taille mondiale qui très régulièrement exercent, il s'agit d'un groupe de pression, exercent des pressions sur la Commission européenne à laquelle le groupe fait connaître ses attentes sur des questions de société majeures, pas seulement sur du conseil, de l'expertise, mais véritablement oriente la politique européenne et nos vies quotidiennes. On continue cette découverte, pour beaucoup, en tous les cas pour nous, de la planète lobby, de la lobby planète, avec Éric Besselius.
Ici, c'est l'avenue Gutenberg. On ne peut pas comparer avec K Street in Washington, mais c'est une des avenues importantes avec beaucoup des ambassades des pays membres de l'Union, mais aussi beaucoup des bureaux de lobbying.
C'est vrai qu'on croise des gens qui parlent toutes les langues. Oui. On entend des petits bouts de phrases en espagnol, en italien,
ça, danois,
danois, en allemand.
C'est ça, l'ambiance de ce quartier, cette on peut voir les lobbyistes et les bureaucrates sur le trottoir.
Oui, ça.
On a même, une fois, on a rencontré M. Bolkestein ici sur le trottoir. ça, c'est déjà une office de lobbying. Donc, c'est le télécom de l'Autriche.
La représentation à Bruxelles.
Mais aussi...
L'Agence spatiale européenne.
Représentation européenne de Bouygues. La conférence des notariats de l'Union européenne, etc.
La région de Stockholm.
Le Sud-Tirol
et le Trentin.
Donc, c'est une collection des différents acteurs.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier. Des analyses à toute heure. Et le point de vue des décideurs. Une analyse et une couverture complète des marchés.
One of the examples where you have the clear effect of what happens here in Brussels on daily people's life is the chemicals directive.
Oui, so un exemple vraiment de ce qui se décide ici à Bruxelles et qui a un impact sur la vie des gens, c'est par exemple les directives sur tous les produits chimiques.
So that's a proposal which was launched by the European Commission a few years ago.
C'est une proposition qui a été lancée par la Commission européenne il y a quelques années de ça.
To have a system of registration and evaluation of all chemicals that are on the market in Europe.
Un système pour répertorier et enregistrer tous les produits chimiques qui sont utilisés par les industries européennes.
because right now only 10% of the chemicals that are used, it is known what is the effect for human health, for the environment. For the rest, we just don't know.
Parce que but they are used. Il y a simplement 10% des produits chimiques qui sont utilisés en Europe, dont on connaît les impacts et les répercussions sur la santé publique, sur l'environnement. Tous les autres produits qui sont utilisés n'ont pas été étudiés pour savoir quelles auraient été les conséquences. Et pourtant, on les utilise massivement.
Et alors ça, je pense que c'est une bonne européenne initiative, que je would défendre, mais l'industrie chimique a commencé un fierce lobby pour undermine the proposal of the commission, etc.
Donc, par principe, cette décision européenne est une bonne décision qui permet de mettre à plat tout l'usage des produits chimiques et de leurs conséquences. Simplement, ces mêmes industriels de la chimie ont déployé des efforts incroyables de lobbying pour justement enlever tout un tas de produits de cette liste et la rendre inefficace, cette directive, pour évaluer les risques encourus par l'usage de produits chimiques.
Merci. C'est un autre bâtiment.
Un autre building.
Mais ici, il y a BASF.
BASF.
L'entreprise chimique de l'Allemagne, qui a joué un rôle très important dans le lobbying contre cette initiative de REACH.
De directive sur les produits chimiques, sur l'évaluation des produits chimiques.
For example, one of the things that it did was coordinate with the chemical industry federations in France, Germany and England.
Et c'est donc une campagne qui a été coordonnée depuis ici Bruxelles à travers toutes les fédérations de l'industrie chimique, sur tous les syndicats de l'industrie chimique dans les différents pays en Europe.
What they did was they published figures on the amount of unemployment which would be generated if the REACH would be accepted.
Et l'argument qui a été utilisé, c'est qu'ils ont dans chaque pays montré les chiffres, voilà le nombre de chômeurs que vous allez créer si vous faites passer cette décision européenne qui va restreindre notre production de produits chimiques, donc l'emploi.
They warned that it would cost millions of jobs in those countries. So for example, Blair, Schröder and Chirac wrote a letter to the commission saying, well, you can't continue with this. We have to reconsider the plans.
Donc, en montrant ces chiffres, ces millions de chômeurs en plus, Blair, Chirac et Schröder ont dû écrire à la Commission européenne en disant il faut que vous revoyiez votre copie, c'est pas possible qu'on crée autant de chômeurs.
But last week a report was released which was done by KPMG, a big accountancy, and that report concludes that the figures given by industry were completely exaggerated.
Et là, la semaine dernière, il y a un grand cabinet de conseil, KPMG, qui a fait une étude qui a montré que ces chiffres qui avaient été présentés par les industriels de la chimie en brandissant la menace pour les emplois étaient complètement faux. Ah.
Là-bas, si j'y suis, mai 2005, lobbying à Bruxelles.
Lobby Planète, balade dans la planète des lobbies à Bruxelles, dans ce qui est visible encore une fois, hein, c'est dans la rue, il suffit de regarder, d'ouvrir une porte, d'aller voir les boîtes à lettres dans le hall d'un building, c'est ce que nous faisons avec un chercheur critique, très critique, Eric Vesselius.
Donc ici, No and Norton. Donc on va entrer dans le lobby. Ici, un autre microcosme du lobbying. Donc les deux étages supérieurs, c'est Hill & Norton, one of the biggest public relations and public affairs companies.
C'est du public affairs et public relations, c'est-à-dire ces conseillers qui aide une entreprise ou une société à intervenir et à faire promouvoir ses idées sur le marché européen à travers les médias.
In the third and the fourth floor is Burch & Marsteller and their public affairs arm BKSH.
Le troisième et quatrième étage, c'est un autre de ces grands cabinets d'influence qui s'appelle Burch & Marsteller. Et leur branche qui est sur les affaires public affairs, c'est-à-dire la politique.
Relations gouvernementales.
Voilà, relations gouvernementales.
Also an office of an individual company, Unilever, a food company, big food company.
Unilever, une des plus grandes multinationales au monde, qui plaide sa propre cause elle-même.
A very interesting organization is this one.
Ça, c'est une organisation qui est très intéressante, BSEF.
Bromine Science and Environment Forum.
Le forum pour la science et l'environnement sur le brome. Mm-hmm.
Alors, attendez. Le brome, il faut que vous sachiez, pour comprendre ce qui va être dit, ce qu'est le brome. Alors, on a regardé dans notre gros dictionnaire et on a lu ceci. Le brome est un élément atomique halogène. C'est un gaz rougeâtre et suffocant,
toxique extrait des eaux marines et des marais salins qui entre dans la composition d'insecticides, d'herbicides et de produits de nettoyage. Suite des commentaires.
You might think that this is kind of an alliance of scientists and environmentalists who are concerned with the effects of chrome.
On pourrait croire que c'est une réunion, un gros groupement de scientifiques et d'environnementalistes, puisqu'elle parle de forum environnemental, qui sont soucieux des conséquences que peut avoir l'usage du brome.
But if you are here, you see that they're on the same floor as Burse and Marsteller.
Mais si on regarde là, on voit qu'ils sont au même étage qu'une grande compagnie de lobbying.
And in effect, the only members of the organizations are the four big producers of bromine.
Or, il se trouve que les quatre principaux membres de ce forum pour la science et l'environnement sur l'usage du brome sont les quatre principaux producteurs de brome.
And they have established here in Brussels because at the European level there was an initiative to forbid certain substances made out of brome.
Et ils sont présents ici à Bruxelles parce qu'il y avait des projets de loi et de directives européennes visant à interdire certain nombre de produits dérivés du brome pour des raisons d'environnement.
They have campaigned, they present themselves as a kind of an organization that fosters scientific research to create real scientific facts on the effects of these substances.
Et donc ils ont fait une très forte campagne en se présentant comme une organisation qui amène des faits, des données scientifiques sur cette question-là.
And in fact, it doesn't even exist, the organization, because the whole organization is run by employees of Burse and Marsteller. So basically, all the money of BSEF goes through Burse and Marsteller.
Et en fait, cette organisation n'existe même pas. Le forum en sciences et d'environnement pour le brome n'existe même pas, puisque tous ceux qui travaillent pour ce cabinet de lobbying et d'audit qui s'appelle Burse & Marsteller, et tout l'argent va dans les poches de ce cabinet.
So it's an alliance of those four big bromine producers, which is practically run, the political work here in Brussels is practically run by this company, Burse & Marsteller.
Donc, financé par les quatre principaux producteurs de brome, ce cabinet, en réalité, mène la politique européenne sur ce produit chimique qui peut être dangereux.
Alors, ces lobbyistes, tous des salauds. On a trouvé les méchants, on a trouvé les vilains, on a trouvé ceux qui sont au service des dominants. Je rappelle la phrase de Bourdieu, les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. Qu'en pense Gérard de Sélis ? Je rappelle qu'il a été pendant des années ex-journaliste de la RTBM, de la radio-télévision belge, et qui pendant des années et des années s'est penché sur les institutions européennes de plus en plus au service des entreprises. Qui sont ceux qui collaborent à tout cela ? Gérard de Sélis.
Est-ce que ceux que tu as rencontrés au cours de ces années qui travaillent dans ces boîtes de lobby, est-ce qu'ils approuvent ? Est-ce qu'ils sont des militants zélés ? Ou bien est-ce qu'ils font ça parce que c'est un job plutôt bien payé et une situation plutôt enviable ?
Je ferai un parallèle entre eux et les fonctionnaires de la Commission européenne. Ce qui se pratique beaucoup, et dans les lobbies et à la Commission, c'est qu'on fractionne tellement le travail des gens qu'ils ne savent pas exactement à quoi sert leur travail quotidien, vers où il va. Mais quand on met tout ensemble, on se rend compte que ça va dans une direction bien définie. Et donc, ce qui m'est arrivé souvent, par exemple, sous le règne de Madame Cresson, commissaire à l'éducation à son époque, c'était de préparer la marchandisation de l'enseignement européen, donc de mettre des fonctionnaires européens à la tâche, mais chacun ignorait totalement ce que faisait l'autre. Et quand j'ai compris ce qui se tramait, j'ai été tous les trouver les uns après les autres en disant « Voilà ce que fait votre collègue, voilà ce que fait votre... » Ils étaient révoltés. Scandalisé, parce que c'était absolument pas leur intention. Et dans les lobbies, c'est la même chose. Vous avez des braves juristes qui font un travail tout à fait pointu, mais pas d'ensemble, et qui ne se rendent compte absolument pas du résultat final. Parce que le résultat final, qui il met ensemble ? Mais ce sont les grands patrons de ces lobbies. Ce sont les directeurs généraux de la Commission européenne. Ce sont les cabinets de commissaires européens. Eux savent ce qu'ils font.
Les méchants, c'est eux, voilà.
Mais
voilà,
la règle,
voilà les méchants.
Depuis le discours de Jacques Delors devant le Parlement européen en janvier 1985 sur le grand marché, la règle d'or en Europe, comme aux États-Unis, c'est que c'est le marché. On parle de démocratie de marché, n'est-ce pas ?
Donc le meilleur moyen d'être démocrate, et que la démocratie fonctionne bien, c'est de la laisser conduire par le marché. Quand on voit ce que le marché provoque comme catastrophe, comme guerre, etc., on peut se poser des questions, mais c'est la règle d'or. Et Jacques Delors, en 85, avait annoncé donc la volonté de la Commission de créer le grand marché en Europe, en annonçant à la clé, dans le même discours, la création de millions d'emplois. On laisse faire les entreprises, vous allez voir, elles vont créer des millions d'emplois. Ceci dit, un rapport interne à la Commission européenne, quelques mois plus tard, a dit exactement le contraire, mais on ne l'a pas publié, le rapport. Donc, c'est une sorte de credo général, qui gagne même le monde socialiste, des gens qui devraient être en première ligne pour défendre le service public, le service au public, qu'on paye le même prix dans la campagne éloignée pour l'électricité et l'eau qu'en ville où tout le monde est... Bon.
En 1985, d'accord, on peut même penser que Jacques Delors était de bonne foi dans ses... Mais on a vu que, bah non, imposer le libéralisme, l'économie de marché n'a pas créé d'emploi, n'a pas répondu à la question de l'emploi.
Il y a deux siècles, Adam Smith, grand théoricien du capitalisme du début du 19e siècle, disait que c'est la main de Dieu qui répartirait les richesses. Ça fait quand même deux siècles qu'on sait que la main de Dieu est un peu paresseuse pour une juste redistribution des richesses. Mais c'est le discours d'aujourd'hui. C'est le discours d'aujourd'hui.
Là-bas, si j'y suis, mai 2005, lobbying à Bruxelles.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier. Des analyses à toute heure. Et le point de vue des décideurs. Une analyse et une couverture complète des marchés.
Il y a deux bouteilles de champagne sur le bord de la fenêtre. C'est la cuvée du capitalisme. C'est des magnums de champagne, la cuvée du capitalisme. Et ça, on pouvait boire le champagne qui était dedans lors du bal du capitalisme. Vous avez fait, vous avez organisé un bal du capitalisme.
Absolument. Alors, je suis Cécile Philippe et donc je suis économiste de formation et je travaille pour le Center for the New Europe. Je suis le directeur de l'Institut économique Molinari. Alors, l'Institut Molinari, c'est un institut d'éducation et de recherche en économie. Donc, notre approche, c'est une approche de marché. On préconise les solutions de marché contre l'interventionnalisme.
C'est-à-dire que vous, vous êtes alors franchement libéral. Si on vous dit que vous êtes ultra-libéral, c'est trop?
Ça dépend ce que vous entendez par ultra-libéral. Pour moi, le ultra-libéral, ça n'a pas beaucoup de sens. On est libéral ou on n'est pas libéral. On est pour la liberté des échanges ou on n'est pas pour la liberté des échanges. Mais il n'y a pas véritablement de demi-mesure. Alors... Si être ultra-libéral, c'est être pour la liberté des échanges, alors je suis ultra-libéral.
Voilà, les choses sont claires, les choses, on n'est plus là, dans l'ombre, dans les choses un petit peu gênées, planquées, complexées, qui agissent par derrière, etc. Là, on y va, franchement. On est dans le Center for the New Europe, et cette jeune femme s'appelle Cécile Philippe. Il y a avec elle Xavier, qui lui aussi travaille et, dans ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire, là, on n'est plus dans, tout à fait dans le lobbying. On est dans le think tank, c'est-à-dire dans ces boîtes à idées, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment à Washington, et qui ont pour but, ben, comme on le suppose, d'influencer, de fabriquer des idées, de faire des recherches au service de cet ultra-libéralisme franchement affiché. Vive le capitalisme, vive l'ultra-libéralisme. Et celui-ci, le Center for the New Europe, a quand même publié quelques douzaines de livres, plus d'un millier d'articles dans des journaux et magazines, a reçu pour des déjeuners, dîners, discussions plusieurs centaines de membres du Parlement européen, et ce think tank s'est connu sous le simple nom maintenant de CNE, CNI. Voilà, c'est un endroit tout à fait sympathique et qui milite à fond pour le capitalisme. We trade the
world. Alors, parlez-nous du centre Center for New Europe.
Alors, ce centre aussi, c'est un institut de recherche. En fait, on est des think tanks, comme on les appelle, comme il y en a des milliers à Washington et comme il commence à en avoir de plus en plus à Bruxelles. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de Bruxelles comme le nouveau Washington. Nos instituts ne font pas du lobbying. On va pas voir les parlementaires ou les députés pour leur dire « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». On cherche à parler à l'opinion publique, par tous les moyens possibles qui atteignent l'individu dans sa maison.
Alors vous êtes d'accord pour qu'on parle d'idéologie ?
Bien sûr.
D'accord.
On défend des idées.
Vous défendez des idées, en l'occurrence, une idéologie libérale.
Absolument.
Que vous pourriez résumer comment ?
En deux mots, la souveraineté du consommateur. On veut que ce soit le consommateur qui décide, et comme chacun est un consommateur, et donc forcément les moyens d'y arriver, c'est la concurrence, c'est le libre-échange, c'est la liberté individuelle, sans frontières, sans barrières. Et ce sont des valeurs auxquelles on croit, c'est la valeur du respect pour chaque individu, l'égalité devant le droit, la possibilité pour chacun de choisir pour sa vie, etc.
Alors en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus ?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement ?
Mais les droits sociaux, les droits des travailleurs, les législations sur le travail, la protection sociale.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus, y compris les moins qualifiés, y compris les plus pauvres, que de toute façon ça bénéficie à tout le monde.
Vous luttez contre l'État-providence.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'État, on ne pense pas que l'État-providence est un bon moyen pour atteindre un objectif qui est super, qui est celui que nous, on défend, qui est celui de la prospérité maximale pour tout le monde. Et voilà, il y a deux moyens. Alors, il y a le moyen de passer par les réglementations, passer par un petit nombre d'individus qui vont décider pour tout le monde, donc les réglementations, les cotisations obligatoires, face à, justement, des échanges volontaires entre individus qui décident de travailler ensemble, qui décident d'échanger, qui décident de circuler, etc. Et ça, ce deuxième volet, on le juge beaucoup plus efficace à la promotion de la prospérité pour tout le monde.
D'accord. Comment vous expliquez que depuis 20 ans, où on voit l'application de vos théories dans la vie de plus en plus, comment vous expliquez l'accroissement des inégalités dans nos sociétés et à l'échelle planétaire ?
Mais écoutez, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que justement, je ne pense pas que depuis 20 ans, on assiste à une...
À l'accroissement des inégalités, pour vous, non. Il n'y a pas d'accroissement des inégalités.
Oui, si, je vous avouerai que j'aurais du mal à juger comme ça, un accroissement des inégalités. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a accroissement des inégalités, ce n'est pas parce qu'il y a du libre marché à tout craint.
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un domaine de l'économie, pratiquement, qui n'a pas fait l'objet de réglementations étatiques, je ne sais même pas si on peut en citer un domaine qui n'est pas réglementé. En France, les dépenses publiques, c'est pratiquement 60% du PIB. Et après, je trouve, du coup, que l'identification inégalité sociale égale parce que marché libre, je trouve ça extrêmement difficile à faire.
Si on avait plus de déréglementation, c'est-à-dire plus de libéralisme, on aurait moins d'inégalités.
Je pense en effet qu'on aurait beaucoup moins d'inégalités.
On vit un peu le socialisme encore pour vous. Hein. Le mur de Berlin n'est pas tout à fait tombé ici.
Larvé. Un socialisme larvé. We trade the world.
Bon, Eric, donne-nous la solution. Comment s'en sortir ? Comment en finir avec tout ça ?
Well, it's clear that something needs to be done to get rid of this lobbycracy in Brussels.
Mais c'est qu'en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour se débarrasser de cette lobbycratie ici à Bruxelles.
And I think it will not be possible to do it within one or two years. It's really a longer term struggle. It took business a long time to get in the position that they're in now. It took them a few decades to really achieve their dominance over the general direction of policy in the European Union.
C'est un travail de longue haleine, ça ne peut pas être réalisé en un an. D'ailleurs, les entreprises et les business qui ont réussi à imposer leur vision des choses aux institutions européennes, eux, ça leur a pris plusieurs décennies.
So a first step will be to convince citizens and people within political parties that this political power of big corporations is really a problem for democracy.
Donc déjà, c'est de convaincre les citoyens, aussi bien que les politiciens, que cette prépondérance des grandes entreprises dans l'appareil politique est quelque chose à remettre en cause.
Of course, they should take account of the opinion of business. But business shouldn't be given the privileged position that it holds right now.
Bien sûr qu'il faut prendre en compte les considérations des entreprises, mais c'est pas celle-ci qui doit entrer en premier lieu. C'est pas la première préoccupation ce que réclament les grandes entreprises.
And more in general, it would mean a re-envisioning of the functioning of the European Union political system at the EU level.
Ça serait remettre en cause aussi le fonctionnement des institutions européennes et remettre à plat le fonctionnement des institutions au niveau politique.
Et voilà, merci à toutes et à tous. C'était Lobby Planète, une nouvelle version
d'un reportage fait à Bruxelles en mai 2005 avec Guy Van Ctil. Merci à Eric Vesselius du Corporate Europe Observatory et à Gérard de Sélis, Europe Inc., comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale, avec une contribution d'Éric Vesselius, c'est aux éditions Agone. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Par exemple, que la musique qui est derrière moi est absolument hideuse. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook de l'émission La Technique aujourd'hui. Alain Duclos et Rémi Quincé, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez. Je rappelle pour notre auditrice qui demandait de l'aide, vous pouvez l'aider en allant sur pourjamila@yahoo.fr. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Arrêtez cette musique! Non!
On fait quoi?
Bah ça dépend. C'est combien le montant du jackpot de vendredi?
13 millions d'euros minimum.
13 millions d'euros minimum?
C'est le super loto du vendredi 13.
13 millions à vendredi 13. C'est très astucieux.
13 malins.
13 élaborés.
Et les gagnants seront 13 contents.
Ou 13 heureux.
Le contraire serait 12 étonnant.
Ce vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire du Disquaire Day, la fête du disquaire indépendant, le samedi 21 avril, un événement parrainé par Iggy Pop. Découvrez chez vos disquaires de quartier plus de 150 vinyles inédits ou collecteurs de nombreux artistes. Dionysos, Camille, Nora Jones, Isia, David Bowie, Gorillaz, Metronomy. Le Disquaire Day, le samedi 21 avril. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Mardi 17 avril, à partir de 6h30, journée Solidarité Syrie sur France Culture. À l'heure de la fête nationale syrienne, endeuillée par plus de 10 000 morts en quelques mois, France Culture consacre son antenne à l'éclairage du drame syrien. Solidarité avec la Syrie, c'est mardi 17 avril sur France Culture. France Culture, une radio de Radio France.
Lundi à 15h, on se retrouve pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
La finance fait son grand retour dans la campagne présidentielle. Plusieurs candidats dénoncent cet après-midi vivement le nouveau contrat à terme sur la dette française, un instrument financier qui sera lancé lundi par la Bourse de Francfort. Cet après-midi, la candidate du Front National, Marine Le Pen, parle d'une nouvelle agression de la finance. Quant au candidat du Front de Gauche, il s'est rendu ce matin devant le siège de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Jean-Luc Mélenchon, qui entendait protester contre la finance qui, selon lui, s'apprête à sauter à la gorge de notre pays. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy est en déplacement à la préfecture d'Ajaccio. Le candidat président préside une réunion consacrée à la sécurité en Corse avec Claude Guéant et Michel Mercier, le garde des Sceaux. Il s'agit notamment de faire le point sur plusieurs assassinats et tentatives d'attentats ces derniers jours sur l'île de Beauté. Cet après-midi, le socialiste François Rebsamen l'accuse de travestir son bilan. Selon lui, la Corse détient depuis 2 ans le triste privilège du record européen des homicides devant la Sicile. Dans l'actualité également, Pierre Mauroy, opéré d'une tumeur au poumon, son entourage se veut rassurant. Pierre Mauroy se porte comme un charme, selon Martine Aubry. L'ancien Premier ministre va rester quelques jours en observation à l'hôpital Percy de Clamart. Il devrait rentrer chez lui en début de semaine prochaine. En Italie, les sacrifiés de la réforme des retraites défilent dans les rues de Rome. Ils protestent contre la réforme adoptée par le gouvernement de Mario Monti. Beaucoup ont signé un accord de licenciement qui leur permet de toucher le chômage. Mais avec le relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans, de nombreux salariés italiens vont se retrouver sans revenus et sans pension. Le Portugal, premier pays à ratifier le pacte budgétaire européen et le mécanisme européen de stabilité. Les deux textes ont été adoptés cet après-midi avec les voix de la majorité de droite et celle de l'opposition socialiste. Bruit de bottes en Guinée-Bissau. Le président Pereira et le premier ministre ont été arrêtés hier soir par des militaires. L'armée qui affirme n'avoir aucune ambition pour le pouvoir, elle prétend agir pour se défendre contre un accord militaire secret qui aurait été conclu avec l'Angola. Enfin, en Corée du Nord, le numéro 1 Kim Jong-un, acclamé par des dizaines de milliers de personnes, une véritable marée humaine en hommage à son père et à son grand-père. Elle a eu lieu quelques heures à peine après l'échec du lancement d'une fusée nord-coréenne. La communauté internationale unanime condamne, à l'exception de la Chine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué en urgence.
Allô?
Nous autres.
Non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochée.
Zoé Varier.
La voix humaine. Suspendue sur le fil du souffle entre le son et le sens. La voix dans tous ses états. Des éclats de voix. David Le Breton mène une anthropologie sensible de la voix.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Et il est 16h04 sur France Inter. C'est l'heure de retrouver Didier Varro. Bonjour Didier.
Vous allez bien Delphine?
Ça va bien. Vous aussi?
Oui, ça va très très bien. Oui, très très bien. Il va être question de voix dans cette émission, entre autres. On vous retrouve à 17h?
Absolument.
Allez, un petit mix libre juste avant de retrouver nos invités Bertrand Burgala et Anaïs qui sont déjà dans le studio. Le mix libre du mois d'avril, c'est pour se mettre en jambes. Oxia, un des pionniers de la scène électronique, revient après 8 ans d'absence avec un album magistral composé sous l'arc de l'harmonie. La scène versaillaise a la chance de se régénérer, la preuve avec ce nouveau tandem composé de Philippe et Émilie. Leur nom de groupe, Saint-Michel. Pour faire honneur à la mythologie versaillaise, ils ont choisi Alex Goffer pour mixer leur premier EP. DJ Hall n'a pas perdu la foi. Son premier album en solo est une leçon de groove sorcier, de house consciente et d'émotion autobiographique. Faire de la musique en couple, c'est jouer l'amour du risque. Le DJ allemand Sacha Funke et sa compagne Julienne l'ont tenté. C'est réussi, même s'il fallait oser baptiser leur association, sa chienne.
was looking for. Keep us together. Bring us closer.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chansons, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Grenoble. Il est né à Bastia. Elle a toujours chanté juste. Il a longtemps dit « Il faut que je chante juste ». Elle dit « Le succès pour un artiste en développement, c'est un moment charnière où l'on peut devenir très con ». Il a dit « Je ne veux pas être incompris, mais je ne veux pas être compris à tout prix ». Elle a sûrement été influencée par son film préféré, Le Pirate de Vincente Minnelli, musique Cole Porter avec Gene Kelly et Judy Garland. Il y a toujours un peu de Toby Damnit de Federico Fellini dans son paysage mental, peut-être selon lui le plus beau film de tous les temps parce qu'avec Terrence Stamp, le cinéma sort de son enveloppe charnelle. Elle a dit « Je suis une fille facile quand je suis bourrée ». Il est assez d'accord avec Yves Adrien, plumitif culte de la culture rock, qui écrivait « Il y a deux trucs qui foutent en l'air les gens de talent, la drogue et les mondanités ». Elle a fait un succès d'un cheap show. Il a fait d'un écrivain un chanteur. Elle a été entertaineuse, puis chanteuse, et fait aujourd'hui la synthèse des deux disciplines. Il a été entrepreneur, chanteur, producteur, et fait aujourd'hui la somme tranquille de toutes ses activités. Elle a voulu retrouver la liberté stupéfiante des chanteuses des années 30, mais aussi faire rire et pleurer en même temps. Il a appelé son album « Toute direction ».